Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire avec le podcast de Gameblog. Et aujourd'hui, il s'agit du podcast 120, un podcast qui pose une question incroyable. Eh oui, la question c'est, est-ce que c'était mieux avant? Peut-être une question que vous vous posez chez vous aussi. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Raon, Julo, Traz et moi, on s'est dit que pour répondre à cette grande problématique, il n'y avait pas mieux que de s'entourer de deux légendes vivantes du jeu vidéo autour de la table rouge laquée la plus incroyable du cosmos. Et pour commencer, on accueille Cyril Drevet. Un tonnerre d'applaudissements pour Cyril.
Ça va, Cyril ? Bonjour, bonjour à tous, amis gameblogueurs.
Ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir parmi nous.
Et de même, parler de jeux vidéo, c'est toujours un plaisir, surtout avec des amis.
Ça fait plaisir. Surtout que tu n'es pas venu seul.
Mais non.
Car
et
à
là,
côté,
méga respect.
Un méga respect. Oh. Est-ce que vous le croyez, ça? À nos côtés,
tu
on
le
a...
crois, ça?
Je le crois, ouais. On a AHL, Alain. Ça va bien, Alain?
Oui, ça va. Ouais. Oh, ouais. Allez, on a sorti les vieux du placard pour parler de jeux vidéo. C'est super.
Mais les vieux les plus passionnés, en tout cas. Et c'est le plus important, en tout cas, pour nous à Gameblog. Alors, messieurs, bien évidemment, hein, Raon, Julo, Traz, on va passer ensemble. On va passer ensemble une petite heure, histoire de voir est-ce que c'était mieux avant. Mais avant, on a une petite annonce à faire, une petite annonce spéciale pour les gameblogueurs, comme tu les appelais, ceux qui nous suivent depuis le début. C'est vrai qu'on l'a vu à différents moments, que ce soit toi Alain ou que ce soit toi Cyril avec le podcast de Pix & Love ou les podcasts anniversaires de Gameblog, vous avez encore vous avez compté dans l'histoire de beaucoup de joueurs. Vous les avez touchés avec Télévisator pour toi Cyril, avec Console Plus, Joypad pour toi Alain. Et Player One aussi, Cyril, entre autres. Il y en a beaucoup. Et justement, on a décidé de vous réunir dans ce podcast, oui, mais aussi dans une nouvelle émission qui va être en exclusivité sur Gameblog.fr. Allez, d'ici la fin de l'année, dans quelques semaines, une émission vidéo toutes les semaines qui vous regroupera. On en reparlera. Voilà.
Mais ça va être chaud.
Ça va être chaud, mais on va se la donner.
Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très sympa. Donc finalement, c'est un petit peu l'échauffement aujourd'hui. Hein.
Absolument.
Alors pour ceux qui... Il y en a peut-être certains qui vous connaîtraient pas très bien encore ou qui auraient envie de savoir un peu qui vous êtes. C'est deux figures du jeu vidéo.
Les moins de 20 ans. Quoi.
Ouais, pour les moins de 20 ans qui ne se souviennent pas de ce temps. Messieurs, à tour de rôle, qu'est-ce qui vous a vraiment donné envie, vous, de rentrer dans le milieu du jeu vidéo? Quel est-ce que, au début, le premier contact avec ce média qui a fait que vous avez fait « Non mais je suis obligé de bosser, de devenir journaliste de jeux vidéo ». Alain.
Moi, au départ, quand j'ai découvert le jeu vidéo, je me suis dit « ça, c'est fait pour moi ». C'était obligé. Et donc, mais au départ, je pensais vraiment pas qu'on pouvait travailler là-dedans. C'était trop bon, quoi. C'était trop bon. À l'époque, je travaillais dans la musique, dans le disque. Et puis, à force de jouer, au bout d'un moment, je me suis dit quand même, ça serait quand même pas plus mal de gagner ma vie avec, parce que ça commence à devenir dur. Et donc, voilà, ça s'est enchaîné. J'ai écrit à Tilt. À l'époque, il n'y avait que Tilt. C'était le seul magazine de jeux vidéo. Ouais. Donc, j'ai écrit à Tilt. Et puis, voilà. Et puis, j'ai réussi à être... Bon, tout le monde écrit au rédac chef des magazines pour se faire engager.
Alain. Et c'est Jean-François Maurice qui m'a répondu.
Et aujourd'hui, voilà, je vais régler mes comptes.
Exactement.
Mais comme c'est moi qui avais répondu
la
à TSR,
exactement.
Par ricochet.
Voilà.
Moi, j'avoue que j'ai été convoqué pour une seule raison, je pense, c'est que j'avais un CV qui était tellement bizarre par rapport à ceux qui devaient recevoir.
Tu nous le précises un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas, justement?
Dans ma première vie, avant que le jeu vidéo existe, il fallait bien que je m'occupe.
Ouais.
Et donc, je travaillais dans le disque et donc j'ai bossé en maison de disque, j'ai fait de la production, j'ai fait des textes, j'ai travaillé avec des gens plus ou moins bien. J'ai même fait des trucs avec Mireille Mathieu et Demis Rousseau, si tu le crois, ça. Il faut bien manger. Et donc. Et donc voilà.
Mangé du poil surtout avec des mises au sauce.
J'ai bien bouffé avec les disques qu'on bouffait. On allait tout le temps au resto et tout. Il y avait un seul problème. Je vous fais une anecdote sur Demis. Ce qui était l'enfer, c'est que moi j'adore bouffer aussi. Marlu, c'était un goinfre. Alors il m'emmenait dans des super restos tout le temps. Alors c'était le pied pour moi, sauf que lui, un beefsteak, ça lui était deux bouchées. Alors à chaque fois, j'avais à peine fini l'entrée qui était déjà au dessert, ce qui commençait à la foutre mal. Quoi.
On l'appelait Gargantua.
Enfin donc, bref, c'est à cause de ça, je pense que Blottière, qui était à l'époque rédac chef
de Tilt,
m'a
celui
convoqué
qu'on ne
parce
nomme
que
pas.
Ça l'a vraiment intrigué. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce mec qui parle de jeux vidéo, mais en fait, qui a fait tout ça. Et donc ça s'est enchaîné.
Et puis depuis, tu es devenu un grand ami de Jean-Michel.
Je sais, on peut se poser la question.
Ceux qui ont écouté le podcast Pix & Love s'en souviendront. Cyril, toi, qu'est-ce qui a été la petite étincelle du départ?
Et ben moi, en fait, moi j'étais juste passionné de jeux vidéo. J'y suis venu très très jeune, vraiment gamin, parce que mon père me ramenait les premiers jeux électroniques quand il allait aux États-Unis et tout ça. Donc de lien en lien, du jeu électronique au jeu vidéo, dès qu'il y a eu les premières consoles, je me suis mis dessus. Je m'étais mis aux ZX81, qui était un des tout premiers ordinateurs et tout ça. J'étais un peu passionné de techno aussi, donc ça rentrait tout ça là-dedans. Et puis, passionné de jeux vidéo, j'ai un moment où j'ai fini, bah, comme vous tous, par m'y connaître un petit peu quand même, tu vois. Ouais. Et puis il y a des relations, par relations, des gens qui ont appris que je m'y connaissais, des relations de mon entourage.
Et que tu avais envie de faire plus que juste y connaître, mais que tu avais envie de contribuer, quoi. D'écrire.
Mais non, justement, non. Moi, j'étais juste passionné, j'étais juste un joueur, quoi. D'accord. Et puis je collectionnais un petit peu.
Ça m'avait jamais traversé l'esprit de bosser.
Ça m'avait pas traversé l'esprit de bosser dedans. D'accord. Moi, ce que j'aimais, c'était jouer, faire de l'ordinateur, c'était juste. Mais il y a des gens qui l'ont appris, ouais. Et comme à l'époque, on n'était pas nombreux, on était vraiment parmi les premiers, hein. Alain, tu t'en souviens, on était vraiment qu'un petit groupe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, ça paraît, c'est les trois quarts de la population qui joue, mais nous, à notre époque, on était vraiment un petit groupe de fondus.
Oui, sinon, c'était des
Alain.
Enfants, quoi.
Sinon, c'était des
enfants, bah,
oui, c'était nous, je te rappelle,
tout.
Quoi, enfin, toi, peut-être moins, mais
moi,
j'étais enfant à l'époque.
Enfant,
Et donc, des relations ont appris que je m'y connaissais, et des gens qui commençaient à sentir un peu ce marché-là et qui ont voulu lancer des... celui qui a lancé Joystick, Marc Andersen, qui avait appris par relation que je m'y connaissais et qui m'a demandé si ça m'intéresserait de bosser. Et à la limite, je vais te dire, ça a été presque une surprise, tu vois, qu'on me demande de faire ça comme métier, quoi, tu vois.
Bah écoute, ça a été une belle surprise, une belle rencontre en tout cas.
Ah bah oui, ça a marqué ma vie jusqu'à aujourd'hui encore. Donc...
Néanmoins, Cyril, je suis désolé de te l'apprendre à ce moment-là du podcast, mais pour l'instant, l'anecdote de Rachel quand même a le dessus. Hein. Est-ce que t'as une anecdote, toi, la Demis Roussosiesque?
Bah moi, tu vois, moi je viens pas d'un milieu aussi flamboyant
que l'artiste Rachel.
Que le milieu du disque, tu vois. Quand lui, il était avec Demis Roussos, moi je regardais Goldorak, tu vois, donc quand même.
Ce qui est pas très simple. Sincèrement, entre les deux, je préfère regarder Goldorak, hein, mais bon.
C'est clair. Non, bah, désolé. Mon début de carrière était moins flamboyant que celui d'un Hugues Lacour.
Mais par la suite, ça va, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, hein, parce que quand même, justement, on en reparlera.
Non, juste une petite anecdote, quand même.
Ah, voilà, alors on l'accepte, on la prend quand même.
Une des personnes qui m'a vraiment mis
le pied à l'étrier,
c'est quelqu'un qui s'appelle Henri Legois, que j'apprécie énormément, et qui était un réalisateur en télévision, qui était un pote de mon père, et qui était le premier qui s'est posé la question de comment passer les jeux vidéo en télé. Et donc il a bidouillé des trucs électroniques dans les régies à l'époque, etc. Il a fait des bidouillages pour réussir à passer,
diffuser l'image, tout simplement,
et diffuser l'image. À l'époque, c'était du Commodore 64, tu vois. Et donc il a commencé à faire des petites rubriques grâce à ça, et très vite, lui, il était réalisateur, donc c'était pas son truc, etc. Donc il m'a passé la main, c'est-à-dire qu'il m'a dit, écoute, moi je peux plus trop, est-ce que toi tu pourrais prendre la relève. Et c'est comme ça que j'ai été peut-être pas le premier, mais le deuxième à passer du jeu vidéo en télévision en France, quoi.
On en reparlera tout à l'heure avec Télévisateur 2, qui a quand même vraiment marqué, hein,
ça c'était bien plus tard,
une génération, ouais, clairement. Mais quand même, n'oublions pas, la question initiale, c'est est-ce que c'était mieux avant. Alors pour répondre à ce genre de questions, il faut savoir est-ce que c'était bien avant de se poser la question de savoir si c'était mieux. Alors justement, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans, on va dire, qu'on se qualifiera peut-être d'âge d'or du jeu vidéo, qui était l'époque des 16 bits, de la Super Nintendo, de la guerre entre Sega, Nintendo, et peut-être même plus tard. Qu'est-ce qui, pour vous, a été le moment, le temps fort? Et comme ça, on va pouvoir voir, justement, si on retrouve cette même intensité aujourd'hui. Alain.
Moi, c'est un petit peu difficile, j'ai un peu de mal à répondre à cette question, parce que bon, je vais paraître bizarre, mais en fait, j'ai tout aimé, quoi. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, j'ai tout aimé, quoi. Alors si, c'est vrai qu'il y a la découverte, il y a eu la découverte. Moi, je pense que peut-être, bon, je pense que la période la plus excitante pour moi, Je pense que ça a été le moment où je suis rentré à Tilt, donc c'était en 87. Bon, d'une part parce que je rentrais à Tilt, bon, que je me mettais à écrire là-dedans, et puis que j'avais quelque chose que je connaissais pas encore. Jusque-là, j'achetais les jeux et je l'achetais péniblement parce que c'était quand même très cher à l'époque. Et puis, d'un seul coup, j'ai eu les coursiers qui m'amenaient les jeux à la maison, je restais chez moi. Et ça, je peux dire, c'est Noël tous les jours, quoi. Donc, ça, c'est cool. Mais surtout, ça, il s'est passé un truc. Moi, à l'époque, j'étais Commodore 64. Bon, j'avais eu ma période, évidemment, Atari et Coleco. Et là, j'étais Commodore 64, ST et Amiga. Et j'avais fait l'impasse sur les consoles japonaises qui étaient sorties, la NES et la Mega Drive.
La Master System,
je me gourre. Et donc, celle-là, j'avais fait un peu l'impasse. Je connaissais pas trop. Et quand j'ai débarqué à Tilt, il y avait tout. Et là, d'un seul coup, j'ai découvert le Mario, le Zelda, le Kid Icarus et tous ces trucs-là. Et là, j'avoue que c'était vraiment, vraiment un truc excitant pour moi. D'un seul coup, c'était tout un pan du jeu que je connaissais pas du tout, quoi. J'étais passé à côté. Je me suis rattrapé depuis.
De ton côté, Cyril.
Écoute, moi, je suis assez d'accord avec Alain. C'est-à-dire que moi, j'ai tout aimé aussi. Et j'ai tout aimé parce que c'est ce qui est génial dans le jeu vidéo, c'est que ça se réinvente en permanence et qu'il se passe tout le temps des choses. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps des nouveaux jeux, il y a tout le temps des nouvelles machines, il y a tout le temps des choses qui rendent ce qui s'était passé avant un peu caduque et qui poussent les choses encore plus loin. Néanmoins, il y a quand même eu des événements qui m'ont marqué. Évidemment, la guerre Nintendo-Sega, ça a été des moments incroyables. Je l'ai déjà rappelé précédemment dans d'autres endroits. La conférence de presse avec Alexis Pajitnov du lancement de la Game Boy en 89, donc avant que la console ne sorte, quelques semaines avant que la console ne sorte, c'était un grand moment. Le CES de Las Vegas,
qui était l'ancienne
E3, qui était un des premiers salons que j'ai couvert, première fois aux États-Unis à Las Vegas et tout, c'était aussi des moments incroyables. Un de mes plus grands moments, c'était il y a pas très longtemps, c'était il y a 2-3 ans, quand je suis allé chez Polyphony Digital, chez le créateur de Gran Turismo avec Kazunori, j'ai pris une claque monstrueuse. Donc voilà, mais comme dit Alain Huyghe, c'est tous les jours Noël, quoi, le jeu vidéo, et c'est ça que j'adore, et c'est ça qui fait que je suis encore aussi passionné comme Alain aujourd'hui. Et le grand truc aussi qui m'a vraiment marqué, c'est comme Alain, de recevoir les jeux, quoi. Et encore aujourd'hui, quand je reçois un jeu, que j'ouvre le blister, j'ai la même émotion, et c'est une émotion qui me transporte, quoi. Il n'y a pas un jeu où j'ai pas vibré à l'ouvrir, quoi. Des plus grosses daubes jusqu'aux plus grands titres, c'est toujours un grand moment.
Ouais, ça, je suis d'accord avec ça. Et moi, j'ai une anecdote à ce sujet-là. Quand je suis rentré à Tilt, il y avait un type qui était très bien, du reste très sympa, que j'aimais beaucoup, Eric Caberia, et qui bossait donc là depuis 2-3 ans. Il faut dire que Tilt, à l'époque, c'était pas des joueurs, c'était le premier magazine.
On s'en était rendu compte.
C'était des journalistes. Ouais, c'est comme ça que j'ai eu l'idée du reste d'aller là-bas, parce que je lisais Tilt et je voyais leurs critiques, les critiques qui passaient dedans. Je me disais, le mec, il a fait sa pige en 2 secondes, il a joué le premier tableau et puis il a écrit son article avec talent, parce que par contre c'était des très bons journalistes qui écrivaient très bien. Et fait donc, ce Eric Caberia m'a dit, mais tu vas voir, t'as une pêche, parce qu'il avait vu tout de suite que j'avais comme une pêche, un enthousiasme sur le sujet.
Ah bon?
Et il m'a dit, oui déjà, et il m'a dit, mais tu vas voir, tu vas devenir un pro comme les autres.
T'avais un avantage, c'est que toi tu venais du disque, donc t'avais un peu de cocaïne avec toi.
Oh,
parce qu'il y avait pas
dans
le jeu vidéo, non?
Oh, coupé.
Eh bien non, ça n'est pas possible.
Et donc cet Eric Caberia m'a dit, mais tu vas voir, hein, cela dit, t'as un enthousiaste à la pêche, mais tu seras comme nous dans 2 ans. Ouais, ça sera un boulot et puis point, quoi.
Sauf c'est que... enthousiasmant comme vision
Sauf
de la vie.
Sauf que voilà, c'est quand même... Bon, ça doit faire combien? Donc...
87, ça fait 22.
22. Et j'ai toujours aussi l'enthousiasme quand, quand j'ai un jeu. Sauf que maintenant, n'étant plus dans la profession, je suis obligé de les acheter, ce qui gâche un peu le plaisir.
J'ai envie de dire à Achel qu'en participant aujourd'hui à ce podcast, en participant à l'émission là, qui va se lancer là, d'ici quelques semaines, finalement, hop, De retour.
Ah,
back dans les bacs.
Le comeback
d'aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que très clairement, et c'est aussi pour nous un honneur et un vrai plaisir de vous avoir aujourd'hui comme les autres fois, c'est de voir à quel point clairement vous êtes passé bien au-delà de l'espèce de blasitude ambiante. Est-ce que vous la voyez, vous ? Est-ce que vous la ressentez, cette espèce de sensation que nous on perçoit, de beaucoup de gens qui trouvent que définitivement c'était mieux avant, et qui est un peu le cœur de cette question, et qui ont du mal à s'enthousiasmer pour
non,
les
choses. Non, mais il y a deux choses
jeux.
Là dans ce que tu dis, parce c'est que il y a est-ce que c'était mieux avant, mais je trouve les gens qui sont blasés aujourd'hui, c'est pas parce que c'était mieux avant, ils sont
mais
blasés.
Mais la plupart n'étaient pas là en fait.
Ils sont blasés, bah oui, ils ont pas connu. Les gens qui sont blasés aujourd'hui, ils ont pas.
Cyril.
Je l'explique qu'on est dans une époque où la passion est moins présente, où on essaie de tout niveler, et où donc ça devient presque mal vu de prendre du plaisir aux choses, de s'exciter sur des choses, d'avoir un avis. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est très mal vu d'avoir un avis. Tu regardes tout de suite, les journalistes ont beaucoup de mal à faire des vraies critiques aujourd'hui. Si tu fais une critique, tu vas te prendre des procès, tu vas être blacklisté dans quelques domaines que ce soit. Hein. À la limite, presque le jeu vidéo est peut-être le dernier
espace d'expression encore
où
assez
tu peux
libre.
Encore critiquer. Néanmoins, j'ai cru comprendre quand même qu'il y avait des grosses pressions ces derniers temps, tout du moins beaucoup plus que à notre époque. Donc je pense
tu l'as entendu où ça, ces choses-là ?
Un peu partout, je le sens. Je sens bien. J'ai entendu dans différents journalistes autour de moi, quand même.
Comment t'expliques ça ? C'est parce qu'il y avait plus d'enjeux financiers
Bien sûr. Ouais, bien sûr. Ça, je pense. Et l'époque, je te dis, on est dans une époque qui ne supporte plus la critique. C'est-à-dire qu'on va tout de suite, les entreprises n'ont plus, quelles qu'elles soient, elles n'ont plus aujourd'hui la capacité de s'autocritiquer et de recevoir les critiques de l'extérieur.
Parce qu'elles n'ont pas assez le temps et parce qu'elles sont dans l'urgence tout le temps de se dire qu'il faut faire du résultat tout de suite et...
Parce qu'elles sont dirigées par des gens de marketing qui répondent à des schémas, à des schémas très bêtes et très basiques.
Est-ce que finalement, Alain, ça, c'est pas un petit peu... l'industrie du disque que tu as peut-être connue, qui elle aussi était un peu déliquescente et qui avait du mal déjà à l'époque
à
subir la critique.
Absolument, oui, c'était un petit peu la même chose. Oui, je retrouve beaucoup de points
plusieurs
communs.
Années plus tard.
Par contre, il y a quand même une différence fondamentale entre les deux industries. Quand je suis parti de l'industrie du disque, ça commençait déjà à sentir le sapin dans la mesure où on venait de sortir la cassette, le Walkman, et que les ventes commençaient à baisser. Rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, mais ça commençait déjà. Alors que quand même...
Oui, parce qu'il ne faut pas l'oublier, je te fais une
Cyril.
Parenthèse, excuse-moi, mais le marché du disque baissait bien avant le piratage. On met tout sur la gueule du piratage aujourd'hui, mais le marché du disque, moi je l'ai connu en crise, peut-être 5 ans, 6 ans avant
absolument,
le piratage, hein,
absolument.
Avant Internet.
On parlait de la cassette, on piratait en cassette, c'est tout.
Oui, oui.
C'était moins important qu'Internet.
Oui, tout le monde l'avait. Donc, de toute façon. Alors que maintenant, bon, le jeu vidéo, quand même, ça se porte bien. Or, quand j'entends les gens qui pleurent un peu, quelquefois les éditeurs, actuellement, il y en a qui pleurent, qui jouent à On est dans la crise. Ouais. Franchement, il faut un petit peu rigoler, quoi, quand même. Je pense pas. Je crois pas à la crise dans le jeu vidéo. J'y crois pas aujourd'hui et j'y crois pas demain non plus. Par contre, c'est vrai, comme dit Cyril, tous ces connards du marketing, qu'est-ce qui me les gonfle.
Si vous voulez rebondir,
ouais,
pas mieux.
Juste rebondir un peu. Vous croyez pas aussi parce que les gens sont blasés justement parce qu'il y a trop de choses qui sortent par rapport à l'époque. Il y a 50 000 jeux par mois. Il faut tout de suite être le top du jeu, sinon ça sert à rien de l'acheter.
Écoute, c'est pas
Cyril.
Totalement faux ce que tu dis. Néanmoins, je crois me souvenir, Alain, que tu me corrigeras, de périodes où il y avait beaucoup de jeux qui sortaient aussi.
Oui,
hein, ça fait longtemps où il y a beaucoup de jeux qui sortent.
J'aurais pas pensé qu'ils sortent. Plus de jeux maintenant, j'ai pas l'impression. Franchement, à l'époque, il en sortait énormément. Il y avait déjà énormément plus d'éditeurs.
Mais il coûtait beaucoup moins cher à faire. Du coup, peut-être moins de pression aussi autour de ces lancements qui deviennent vraiment cruciaux.
Le gros problème maintenant, c'est la technologie. Avec la technologie, on peut faire des trucs extraordinaires. Pour faire des trucs extraordinaires, il faut mettre un max de pognon. Et à partir de ce moment-là, c'est un petit peu ce qui écrase le truc. Parce que les investissements étant tellement gros qu'effectivement, il faut essayer de tout contrôler, etc. Et d'autre part, au niveau de la créativité, ça joue un rôle parce que tu prends pas des risques quand tu as dépensé des dizaines de millions de dollars. Tu prends pas des risques sur un jeu nouveau.
Et bien justement, on est en train d'y rentrer, hein, finalement, petit à petit, dans le cœur vraiment de la question. Est-ce que c'était mieux avant ? Est-ce que justement, clairement, on est tous d'accord pour le dire ici, il y a des jeux extraordinaires aujourd'hui, on ne remettra pas ça en cause. Mais c'est vrai que tout ce qu'on est en train un petit peu d'évoquer, la pression de l'argent, le fait que les jeux coûtent de plus en plus cher et qu'ils donc se doivent d'être rentabilisés, est-ce que ce n'est pas finalement un peu des freins ? Tu commençais à l'évoquer, Alain, un petit peu moins de créativité, on prend un peu moins de risques, on est un peu plus frileux. Et du coup, bah, le « c'était mieux avant », ce n'est pas forcément ce qu'on voit à l'écran, mais peut-être bah, être un peu plus bridé, moins de créativité dans le jeu ? Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, personnellement, oui, alors, je pense que c'est un fait indiscutable. Il y a quand même beaucoup de créativité qui part maintenant. Maintenant, on est dans le spectaculaire. Mmh. C'est le spectaculaire qui prime. Cela dit, je ne vais pas cracher dans la soupe. Hein. Est-ce que j'irai échanger mon vieux Jumpman ou mon Lord Runner contre... contre le dernier Call of Duty, je ne suis pas sûr que faut pas quand même cracher dans la soupe, quoi, je crois quand même. Mais bon, effectivement, oui, il y a des choses qui changent. Et bon, moi, franchement, je ne pense pas que c'était mieux avant. Je ne pense pas que c'était moins bien. Je pense juste que c'est différent. Pareil, la 3D, c'est super, mais la 2D, c'était super. Et quand j'ai un jeu en 2D, je suis encore très, très content et ça m'éclate. Franchement, moi, je n'ai pas... Au niveau du jeu, j'ai pas vraiment de problème. Je pense que c'était ni mieux ni moins bien. Par contre, c'était différent et c'est vraiment très différent maintenant.
Moi, je suis plus partagé. C'est très intéressant ce que vient de dire Alain, comme toujours.
Merci.
Néanmoins, parce que le passage de la 2D à la 3D a changé pour moi énormément de choses. Et notamment, ce qui est compliqué dans l'histoire, pour savoir si c'était mieux avant ou pas, c'est que la 3D a amené énormément de choses au niveau visuel, au niveau immersif et tout ça. Néanmoins, on a perdu du coup ce que la 2D permettait en gameplay. C'est-à-dire que le gameplay était beaucoup plus réactif, beaucoup plus précis, beaucoup plus simple sur la 2D. Donc les jeux étaient beaucoup plus jouables et c'est pour ça que je défends que les Mario étaient beaucoup mieux en 2D qu'en 3D aujourd'hui. C'était du vrai jeu de plateforme. Ouais. C'était du vrai jeu de plateforme où tu devais être au millimètre près, etc. Et pour obtenir ça, seule la 2D, à mon avis, le permettait, cette précision. Mais du coup, la 3D, excuse-moi, Raon, la 3D permet des environnements plus larges,
plus d'immersion.
Plus d'immersion. Donc c'est compliqué
à tes
quand
yeux,
même.
On a perdu en gameplay ce qu'on a gagné en immersion.
Voilà.
Ouais. Mais t'as rejoué récemment à un bon vieux jeu de l'époque, genre début
mais
90.
Tout le temps, tout le temps.
Et tu trouves pas ça excessivement difficile finalement ?
Rigide peut-être ?
Rigide et ouais.
Non. Non. Je trouve vraiment que le gameplay de Mario, moi pour moi, ma référence, c'est Super Mario World, donc le Mario 4
sur Super Nintendo.
Il y avait aussi Mario 3 qui était quand même un sacré truc. Mais Mario World, c'était vraiment pour moi l'aboutissement ultime du jeu de plateforme. Je parle pas d'autres type de jeu et j'y rejoue de temps en temps parce qu'on a pu l'avoir sur DS, on l'a pu avoir sur différents, il est ressorti en différents biens et j'y rejoue et c'est pareil un peu pour Zelda. Je trouve que ces jeux là étaient beaucoup plus en revanche un jeu de course aujourd'hui ou un FPS aujourd'hui, ça aurait pas été possible en 2D.
En gros, il y a des genres qui en ont bénéficié totalement de cette 3D pour vraiment toucher.
Tu vois, les shoot'em up ont disparu.
Moi j'adore. Voilà. J'étais un grand fan de shoot'em up.
Alain, parce qu'en plus, t'es pas totalement d'accord avec ce que disait Cyril sur le passage 2D 3D.
Non, parce que oui, je suis d'accord sur le principe que le passage 2D 3D n'a pas été réussi en général. Par contre, pour moi, il y a justement Mario à partir 64. De Mario 64 et de Zelda Ocarina of Time, ces deux-là pour moi sont exemplaires du passage de 2D en 3D sans aucune perte de gameplay.
Je suis pas d'accord, mais on en reparlera un autre jour. On aura l'occasion
dans une autre
émission. Je crois que nous aurons l'occasion d'en
parler.
Julo, tu veux réagir?
Ouais, Mario pour moi c'est le premier vrai jeu en 3D en fait. Et c'est là que je suis assez d'accord avec Alain. C'est la première fois où moi j'ai ressenti ça. C'est le moment où tu pousses pour la première fois le stick et là tu comprends. T'as eu des jeux PlayStation avant qui était en 3D, je sais pas, Pandemonium, machin, etc., mais qui n'était pas en 3D en fait. Et là, on découvrait vraiment l'immersion totale dans un univers et toute l'histoire du stick analogique de la fameuse manette de la N64, etc., prenait tout son sens d'un seul coup à la première pression, voilà, dans Mario 64.
Je suis pas du tout d'accord, mais vraiment.
On en parle.
Bah, pour moi, un des premiers jeux, vrais jeux 3D vraiment intéressants, c'était Tomb Raider. J'en oublie peut-être d'autres à l'époque.
Tomb Raider qui n'aurait pas été possible
en 2D.
Avant en 2D.
Voilà.
Et quand ça aurait été Rick Dangerous, qui était très sympa.
Et
mais
quand je joue à son descendant, quand je joue à son descendant à Uncharted 2, tu vois,
celle-là on l'avait pas faite. Rick Dangerous, Uncharted.
Non, descendant de Tomb Raider.
De Tomb Raider. Parce que pour toi, Uncharted 2, c'est un Tomb Raider 1.5.
C'est 2.0. C'est Tomb Raider 2.0. Tu remplaces la nana par un mec. Ce qui n'empêche pas que c'est juste. Je deviens fou sur ce jeu, quoi. Mais tu vois, ça aurait pas été possible en 2D.
Je pense qu'il y a aussi un autre aspect qui a changé vraiment, qui est vraiment très important, c'est la durée du jeu. La durée
du jeu. Je voulais en revenir là-dessus.
C'est indiscutable qu'en 2D, à l'époque, on faisait des jeux. Alors que maintenant, avec la technologie, on en fout plein la tronche. Hein, on fout des effets spectaculaires, etc. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Et effectivement, l'argent, il est mis là. Et puis, on a des jeux qui sont superbes, mais bon, qui ne durent pas vraiment longtemps.
Oui, mais il y a peut-être un autre phénomène là-dessus. Que je vis personnellement, c'est que moi, quand je jouais à ces jeux, j'étais ado, voire gamin avant, et j'avais le temps de faire ces jeux.
Et Alain aussi, il a le temps maintenant.
Et
j'ai le temps, je suis gamin, je suis retombé en enfance.
Et aujourd'hui, j'ai plus le temps dans ma vie. Hein. Donc, je suis content finalement que ces jeux, et ça tient peut-être au fait, donc, du coup, que là, faut pas oublier qu'à l'époque, c'était surtout les gamins, les ados qui jouaient aux jeux, et que maintenant, c'est plutôt une population adulte.
Mais alors, justement.
Ils sont peut-être plus adaptés aujourd'hui à une population adulte qui n'a pas le temps de faire des très longs jeux, quoi.
Bah, justement, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. En plus, quelqu'un que tu connais bien, tu le citais tout à l'heure, Kazunori Yamoshi, le père des Gran Turismo, il nous a avoué il y a quelques semaines, lorsqu'on l'a rencontré, bah, justement, dans ses studios chez Polyphony, qu'on lui a posé, les joueurs ont changé ces 10-20 dernières années. Le public a grandi, et effectivement, un public qui, en passant maintenant majoritairement dans les trentenaires, le cœur de cible du jeu vidéo, a moins de temps pour jouer. Est-ce que vous adaptez vos jeux en conséquence ? Et ce qu'il nous révélait, c'est qu'effectivement, oui, les jeux allaient être plus condensés, qu'il allait mettre des raccourcis plus rapides, en gros, pas du tout arcadiser la conduite ou quoi que ce soit, mais permettre d'aller beaucoup plus rapidement dans le jeu pour pas avoir à passer forcément, en tout cas, 100 heures pour débloquer toutes les voitures, ce genre de choses. Est-ce que, par exemple, ça, c'est quelque chose qui trouve un écho chez toi et qui, pour plein de gamers, est donc, finalement, un affront, genre, c'est forcément le mal, puisqu'on diminue la taille du jeu, mais peut-être que pour toi, et le style de joueur que tu représentes, c'est finalement plutôt positif, c'est
ben
prendre
oui,
en compte
c'est,
le style de vie.
C'est exactement ça, parce qu'on a vieilli. Le problème, c'est qu'il va falloir que les éditeurs tiennent compte que les ados, ils jouent toujours, et les gamins, ils jouent toujours, donc, et qu'il y a toujours des gamers, même s'ils représentent maintenant une minorité par rapport à l'ensemble des joueurs, les gamers sont toujours là, et il va quand même falloir leur offrir des jeux aussi longs et aussi fascinants que ceux que l'on avait à notre époque. Ou alors, comme tu le dis, bah, ça sera moins bien aujourd'hui qu'hier.
Mais il y a aussi une contradiction. Il y a aussi une contradiction là-dessus, un paradoxe. C'est-à-dire, effectivement, les jeux sont de plus en plus courts. Mais que dire du online ? Que dire de World of Warcraft ? Où là, je pense qu'il y a des gens, moi personnellement, c'est pas mon truc, mais il y a des gens qui passent plus de temps qu'ils n'auraient jamais pu passer sur aucun jeu.
Là,
donc à la fois, il y a des
jeux
plus courts et il y a des jeux beaucoup plus longs.
Et trop longs peut-être même, parce que
ça bousille la vie sociale.
No life et...
Apparemment, on veut réagir.
Ouais, je voulais juste ajouter que parmi les vieux jeux, enfin ceux qu'on va considérer vieux, on va dire remonter à l'époque 16 bits peut-être. Tous les jeux de l'époque n'étaient pas forcément très longs. C'était leur difficulté qui faisait qu'on passait beaucoup de temps dessus. Mais on prend un Ghouls and Ghosts ou des choses comme ça, c'est pas forcément très long quand tu le fais d'un coup, tu vois. En termes de durée de vie, bon, en dehors des gros RPG.
Tu prends un Zelda 4, un Mario 3 ou 4, fallait quand même un certain temps quand même pour le finir.
Et même par exemple Tomb Raider. Hein, moi j'aime beaucoup Tomb Raider. Quand on compare les durées des premiers qui étaient vraiment interminables avec
mais
les derniers,
qui, notre temps
qui sont
aussi.
Très sympas, mais qui sont vraiment beaucoup plus courts.
Mais alors, alors où il a un peu raison, Raon.
Ah, c'est un peu sauvé.
Juste un peu.
Un peu sauvé.
Juste un peu. Hein, faut pas exagérer parce qu'après, voilà. Déjà qu'avec sa nouvelle coupe de cheveux, il ressemble à un super Saiyan. Alors si on lui en donne trop, c'est que aujourd'hui, ce qu'il n'y avait pas forcément dans les jeux de l'époque, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Et donc, c'est vrai que, par exemple, Uncharted 2, on se le torche en mode facile, on se le torche très rapidement. En mode difficile,
c'est pas la même histoire.
C'est pas la même histoire quand même. Et il y a beaucoup de jeux qui sont comme ça aujourd'hui.
Mais donc, c'est justement pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire
exactement.
Donc c'est plutôt pas mal.
Ça, c'est plutôt pas mal.
Et alors, qu'est-ce que vous pensez un petit peu du... Rappelez-vous, il y a quelques années, on nous a dit format cartouche, passage au CD. On va bientôt baisser les prix. Oui. Et puis de cette inflation, voilà, c'était mieux avant aussi.
DTC, comme on dirait.
Ouais, c'est ça. C'était aussi que quelque part, aujourd'hui, on paye encore plus cher les jeux et qui sont plus courts. Et c'est vrai que forcément, il y a des gens qui se sentent floués.
Absolument. Bon, alors, ça, c'est marrant. Moi, j'y ai jamais cru à leur histoire. On va baisser avec le CD. Pourquoi ? Parce que je l'avais déjà vécu avec dans le disque. Ouais. Quand j'ai quitté le disque, c'était juste le CD qui arrivait. Ouais. Il y avait à l'époque qu'une seule usine pour fabriquer les CD. C'était un truc, c'était de la haute technologie, donc c'était très cher. On a dit, et je me souviens, le PDG disait non mais il n'y a pas de problème, là c'est très cher parce qu'il y a une seule usine, mais après, alors que maintenant on fait un CD pour je sais pas, 10 centimes, même pas.
Non mais là on est en train de nous refaire la même histoire avec la dématérialisation.
Ouais, ouais. Et puis une fois que les gens y seront passés, ben les prix vont
s'en. C'est pour ça qu'il faut lutter, je vais faire vraiment vieux con là, mais qu'il faut lutter contre la dématérialisation, parce que au final on te vend un truc où il y a beaucoup moins de services que ce que tu avais avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la boîte, il n'y a pas la jaquette, il y a quelque chose que tu peux perdre facilement, qui peut s'effacer, qui peut pas se revendre, etc. C'est mais on te le vend toujours aussi cher, quoi. Donc il y a un moment, arrêtez de nous prendre pour des...
C'est tout un problème, la dématérialisation. On en reparlera probablement sur une prochaine émission aussi, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur.
Je veux bien participer.
Oui, en plus, moi, ça,
je le note,
là-dessus,
je le note.
C'est ce qui m'ennuie. Bon, alors là, je vais rebondir un petit peu à moitié là-dessus et à moitié sur le sujet de fond, parce qu'on parle, est-ce que c'était mieux avant, en parlant des jeux, mais on peut parler de l'ambiance générale du circuit.
On peut en parler.
Et de la presse.
Moi, j'avoue que effectivement, en tant que vieux co, je préférais vraiment très nettement l'époque où on achetait ces jeux dans des boutiques spécialisées avec des vendeurs qui étaient des passionnés aussi. On pouvait discuter. Il y avait une ambiance. Il y avait un truc. Alors que moi, le coup, on prend le jeu, on le met dans le caddie au supermarché. Moi, ça me met les boules. C'est pas ma tasse de thé, quoi. Et donc, je pense qu'il reste encore quelques boutiques, ça arrive, où il y a des mecs qui sont des passionnés, qui vendent. Et ça m'ennuierait qu'ils disparaissent, parce qu'il en reste déjà. C'est une espèce en voie de disparition, quoi. Alors, on va tous après aller au supermarché, ou on n'ira même plus au supermarché, puisqu'on aura le supermarché Internet.
Qu'est-ce que t'en penses, Julo ?
Je suis tout à fait d'accord. Et en plus, je voudrais rajouter, on n'en a pas parlé depuis le début, mais c'est vrai, dans la thématique, est-ce que c'était mieux avant ? C'est vrai qu'à l'époque, il y avait un petit côté comme ça, bouche à oreille, il y avait de la surprise, il y avait des nouvelles choses comme ça qu'on n'attendait pas. Aujourd'hui, tout est ultra calibré et moi, c'est un peu cette ambiance générale que je regrette. C'est-à-dire que t'as un trailer toutes les semaines pendant les 6 mois qui vont précéder la sortie d'un jeu.
On sait pas trop.
Tu vas absolument tout apprendre. Tu vas avoir 4 reportages sur le jeu, etc. Bon, c'est très bien, c'est génial.
Tu rejoins ce que je disais. C'est maintenant, tout est marketing.
Exactement.
Le marketing pourrit tout ce qu'il touche.
D'une précision, tu vois, d'horloge suisse, quoi. Il n'y a plus ce charme. Et justement, il y a un truc que je trouve sympa, et c'est justement ces jeux à télécharger sur le Xbox Live Arcade, etc. Parce que je retrouve un peu, et comme tu disais, Alain, quand tu es allé dans les boutiques, etc., ou que tu avais un pote qui disait, t'as essayé, machin, etc., on vit ça encore sur le Xbox Live, là, récemment, avec Trials HD, par exemple. Tiens, tout le monde s'est mis à en parler d'un seul coup. Splosion Man, et tous ces petits jeux, Pain sur le PSN, etc.
Braid,
qu'on peut se passer un peu comme ça, on se passe le mot comme à l'époque, ça j'adore. Mais c'est quelque chose qui me manque.
Mais il y a un cas intéressant sur, quand même là-dessus, c'est la PSP Go et la PSP normale, alors que Sony tente le coup de la dématérialisation et a priori ça se passe pas très très bien. Et
c'est pas si mal que ça non plus.
Bah, de leur point de vue, en tous les cas, par rapport à ce qu'ils voulaient faire,
oui, mais
c'est pas
des grosses volumes. Leur point de vue,
ouais,
la PS3 est le carton du siècle, donc tu vois. Donc, où on voit que la PSP se porte de mieux en mieux. La PSP normale et que la PSP Go, a priori, quand même,
en volume de vente,
elle s'installe pas très bien. Donc, a priori, nous ne sommes pas que Alain et moi, les deux vieux cons contre la dématérialisation. A priori, parmi nos amis qui nous écoutent, c'est un peu la même chose aussi.
Bien sûr, je dis pas que c'est un peu inéluctable quand même. C'est pas.
Honnêtement, ai peur.
J'en ai peur aussi.
J'aime pas, je suis con, mais je pense que effectivement, on va y venir. Quoi.
Je pense que c'est pour tout. Comme pour tout, il restera une frange de gens qui aimeront bien collectionner, avoir de belles boîtes, de machin, et que tu auras le général public qui en aura rien à cirer, qui sera juste consommateur et qui bouffera du online.
À partir du moment où tu n'as plus de machine avec des supports à vendre, parce que c'est un peu ça l'étape d'après, les collectionneurs ils vont rester
à faire
du rétro.
Qu'il y a toujours des platines vinyles qui se vendent.
Cela dit, moi je pense même que ça va aller effectivement plus loin. Je pense que ce qui va être dématérialisé, c'est les consoles, quoi.
C'est le joueur. Va être dématérialisé. Ce seront des bots.
Non, je veux dire, tu iras sur un serveur et tu joueras ton jeu.
Et
les sorties se feront comme ça. Et puis voilà, il y aura plus de.
Bon, c'est beaucoup plus proche de nous qu'on
le sait qu'on arrivera à ça un de ces jours, quoi. On aura un serveur général où tu auras les films, tu auras les jeux. Bon, ça commence déjà, mais
c'est ce que j'allais dire. Pour les films, c'est ce qui se passe déjà. Canal Plus fait des trucs.
Ouais, ouais.
T'as plein de grosses boîtes qui commencent à faire ça.
T'auras une machine unique et puis tu prendras tes.
Voilà,
et là, il ne sera plus question de boîte.
Et puis, tu auras un abonnement.
Ça arrive, c'est déjà c'est en bêta test. À la fin de l'année aux États-Unis. Ouais. C'est On Live. Hein, et ils ont même annoncé, c'est une nouvelle, que On Live sera aussi accessible sur téléphone portable. Alors, il reste à voir exactement comment ils vont le faire. Mais en tout cas, c'est l'ambition. Et si ce n'est pas demain, c'est dans 15-20 ans. Mais c'est vrai que le jeu se dématérialise totalement. Et que c'est une vague de fond, une lame de fond qui risque d'être difficile à endiguer.
Bah, de toute façon, pour le moment, à mon avis, à partir du moment où. Enfin, ceci dit, non, ça peut venir plus vite, mais. À partir du moment où il y a plusieurs constructeurs qui ont besoin de s'affronter avec leurs machines et qu'il n'y a donc pas de machine unique, c'est un peu compliqué pour proposer des services comme ça qui correspondent à toutes les cibles possibles de l'industrie.
Ouais, la guerre sera moins.
Ça retarde un peu l'échéance.
Moi, je dirais, à la limite, ça fera prendre plus de valeur à ma collection.
Ouais. Exactement.
Phrase pour conclure sur ce point.
Pour rebondir un petit peu là-dessus, est-ce que justement, vous ne pensez pas que le fait que les joueurs puissent aussi envoyer leur propre création sur le Xbox Live notamment ou sur iPhone, hein, peu importe. Est-ce que c'est pas aussi un des progrès qui fait que la dématérialisation, ça peut être aussi avoir ses bons côtés, quoi. De ce point de vue-là, en tout cas.
Ouais, ça m'a l'air assez limité pour l'instant, quand même, ce que tu dis. Mais moi, alors, justement, en revanche, ça me fait penser à quelque chose, Trace, que tu dis là, c'est que, en fait, il y a aussi quelque chose qui a énormément changé dans les jeux d'aujourd'hui. Mm-hmm. C'est que au début du jeu vidéo, les développeurs de jeux, c'était des bidouilleurs. C'est-à-dire que c'était des gamins qui, comme nous, bidouillaient sur leur ordinateur, et, qui faisaient un programme, deux programmes, qui commençaient à se mettre à l'assembleur, au langage C, etc. Et qui apprenaient à aller au tréfonds de la machine et à exploiter les moindres capacités de leur machine. Ils devenaient des demo makers, etc., etc., avant de devenir des développeurs de jeux. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, où ce sont des ingénieurs informatiques tu vois, qui sortent d'école, etc., et qui utilisent des librairies fournies par Sony ou par
Microsoft
ou par Nintendo, tu vois. Et la PS3 est un des cas concrets de ça, c'est que c'est une machine, si tu mets pas les mains dans le cambouis, t'as du mal à en sortir. En revanche, si tu mets les mains dans le cambouis, c'est la meilleure machine au monde. Et donc, on se retrouve avec des jeux qui n'exploitent plus correctement les machines. Tu arrivais en fin de vie d'une console il y a encore 10 ans, en fin de vie d'une console, les mecs ont tiré les moindres, ils allaient au fin fond du fond. Je me souviens juste une anecdote, c'est que sur les jeux sur ordinateur, genre Commodore 64 et tout ça, à la fin, les mecs allaient jusqu'à exploiter le buffer clavier pour choper la moindre mémoire.
Il reste de la place.
Les démo makers faisaient ça, ils allaient jusqu'à prendre la mémoire dans le buffer clavier, tu vois.
J'entends bien ce que tu dis, Cyril, et avant de t'entendre, Alain, sur ce point là est-ce que quand même c'est pas aller peut-être un peu vite en disant qu'aujourd'hui il y a plus de créateurs complètement passionnés qui on prenait l'exemple d'Uncharted tout à l'heure, c'est vrai qu'on les a rencontrés, donc vraiment on peut le voir, mais c'est vraiment des gars qui ont exploité la PS3 à fond et qui ont encore la sève du développement pur et dur de jeux très
présent. Mais pourquoi ils ont exploité la PS3 à fond? Parce qu'ils font partie de Sony. Naughty Dog fait partie de Sony, tu vois. Donc ils ont accès à des librairies c'est que n'ont pas les autres.
Non, ils les écrivent même en fait.
Oui, ils les écrivent. Dans le cas, en l'occurrence, mais tu reprends les, tu vois, c'est la seule raison.
Mais c'est les mêmes, c'est les bidouilleurs, pareil. C'est les mêmes, c'est le même genre de caractère, c'est les bidouilleurs qui veulent aller jusqu'au
bout.
Mais ce qui a disparu, en fait, à mon avis, c'est le côté artisanal. Je veux dire, avant, il y avait un mec qui pouvait faire un jeu dans sa cuisine. Du reste, moi, je me souviens, j'étais à Joypad, oui, quand Terry Chahi est arrivé, il avait fait dans sa cuisine, il avait fait Another World, tout seul, quoi.
Les 10 premières années du jeu vidéo, c'était que
alors
des mecs
que maintenant,
ça dans
c'est
leur,
l'usine,
dans leur cuisine,
c'est
hein,
l'usine
dans leur...
avec tout un tas de mecs dans tous les sens.
Alors,
quoi.
Alors justement, là, il y a deux choses. Hein, on va probablement revenir dessus. Il y a la réémergence de ces petits jeux avec par exemple l'iPhone ou les jeux indépendants qu'on voit sur Xbox Live Arcade ou sur le PlayStation Network. Mais au-delà même de ça, est-ce que donc, et c'est une question que je vous pose, j'ai mon avis sur la question,
mais c'est très contrôlé.
Mais est-ce que
tout ça,
justement le fait que ça devient un peu Hollywood est-ce que c'est forcément du mal, un mal? Tout à l'heure, on en parlait, genre le côté spectaculaire.
Non,
tu n'échangeais pas ton Lord Runner contre un Call of Duty.
Ouais,
donc à la fois.
Et quelques Modern Warfare 2, on ne peut pas le faire dans sa cuisine.
Ah non.
Ça, c'est clair.
Si, si t'as
et donc,
télé, t'as
je ne vais pas cracher dans la soupe. Non, c'est vrai. Non.
Il y a le pour, le contre.
Voilà, il y a le pour, c'est pas simple.
Et qu'est-ce que vous pensez du coup alors de l'émergence de la scène indépendante où on voit des jeux comme Braid qui ont été faits tout seul, enfin quasiment.
Quasiment,
tout seul,
mais même il y en a plein d'autres. Il y a plein de petits jeux qui sont faits à deux ou trois maxi, des équipes comme l'époque et qui sont
ça
des jeux.
Oui, mais ces petits jeux, tu vois, n'ont pas.
Attention à ce que tu vas dire, Cyril.
N'ont pas la distribution et sont très contrôlés. C'est pas comme à l'époque où les mecs faisaient, comme le disait Alain, dans leur cuisine. Ils trouvaient, t'avais toujours un petit éditeur dans le coin qui acceptait de les sortir et machin. Et le jeu pouvait cartonner, tu vois, mais mondialement.
Et notamment, il y avait une liberté extraordinaire. C'était sur PC ou sur Commodore 64, etc.
Parce que
les Japonais, ils demandent une licence, donc faut passer un examen, faut voir si ton jeu est accepté ou pas.
Et pareil sur l'iPhone.
Là, il y a des mecs qui pouvaient faire leur jeu dans leur cuisine et sur le papier, ils pouvaient fabriquer la disquette eux-mêmes et la distribuer eux-mêmes.
Mais tu peux le faire aujourd'hui sur PC toujours. Mais
aujourd'hui et un carton hier, par exemple,
c'est
un carton
pas la même
hier
chose.
C'était peut-être, je sais pas, 50 000 ventes. On avait l'impression que c'était
bien
colossal.
Sûr, bien sûr. Ouais.
Aujourd'hui, un Braid,
c'est plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Donc, c'est un petit jeu, mais il a une exposition.
Oui, mais
malade,
dis donc, faut voir par rapport à la population.
Non, mais dis donc, mon petit bonhomme.
De joueurs, camarade. Tu vois, c'était pas les proportionnellement.
Oui, mais pour le créateur, pour le créateur lui-même, ça fait quand même plus de personnes qui ont vu son œuvre qu'à l'époque.
Le créateur, avec Alain, et tu le sais aussi, parce que tu l'as vécu aussi. On connaît un nombre de jeunes développeurs de l'époque qui se sont fait des couilles en or, pour parler vulgairement, avec un jeu qu'ils ont fait un peu bricolé. Aujourd'hui, un développeur, c'est numéro 66 000 dans un open space, et le mec, il gagne ses 2000 euros ou ses 3000 dollars par mois, et basta, quoi.
C'est vrai que Jonathan Blow, pour Braid, il a d'abord levé des fonds. Même si c'est un jeu indépendant qu'il a fait tout seul, etc., c'est pas exactement le même délire qu'à l'époque.
Effectivement, il a coûté beaucoup plus cher que ce qu'on croit en fait. Il semble que c'est plus de 100 000 dollars.
Dans les 200 000 dollars.
200 000.
C'est pas si peu cher quand même.
Mais encore une fois, on ne crache pas sur effectivement Modern Warfare 2. Ça va nous éclater comme beaucoup de jeux nous ont éclaté dans le passé.
Alors il y a un instant on parlait justement un petit peu de l'ambiance, Alain le disait à juste titre, le côté Julo était vraiment d'accord là-dessus, je crois qu'on l'est un peu tous d'ailleurs, sur le côté on allait voir les revendeurs, on parlait avec eux, on parlait entre potes, etc. Je pense que la communication entre joueurs, elle n'a pas disparu, bien au contraire, avec la force des forums, ce genre de choses, et c'est peut-être un petit peu, elle a changé probablement. Mais est-ce que vous trouvez, au-delà de cette ambiance-là, que... on va parler d'un cas que tu connais bien, Cyril. On va commencer avec la télévision, mais tout à l'heure, après, on va parler de la presse internet, de la presse papier. C'est tous ces acteurs qui entourent le jeu vidéo, qui sont vraiment, qui en parlent. Est-ce que ça a changé en bien, en mal? Quelle évolution vous voyez là-dessus?
Ça a changé déjà un gros problème, c'est que... Enfin, c'est pas un gros problème du tout, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est que maintenant, tous les médias parle du jeu vidéo, c'est-à-dire t'ouvres Télé 7 jours, t'as une rubrique jeu vidéo dedans, t'ouvres Monsieur...
Alimenté par Bertrand Hamard.
Voilà,
il est partout.
Il est partout. Bertrand, si tu nous écoutes...
Si tu nous écoutes,
oui,
big up.
Il nous écoute, d'ailleurs.
tu vois, tu peux ouvrir n'importe quel magazine, même à la limite d'architecture ou je sais pas quoi, t'auras
même
une rubrique...
Même Télécap satellite hebdo.
Voilà, t'auras
c'est
une
ce
rubrique...
C'est ce qui a tué la presse papier.
Par un certain JC.
Ça a tué... oui, entre autres, ouais, t'as raison. Entre autres,
ça a tué la presse papier.
Donc, ce sont des gens gens qui parlent du jeu vidéo sans forcément le connaître.
Bertrand, pas ceux qu'on a.
Si tu... Bertrand, si tu nous écoutes.
Il s'y connaît, clairement.
Tu vois, donc déjà, il y a ça qui a changé. Mais en même temps, il s'adresse à des gens qui ne sont plus que des gamers. Parce que, tu vois, à l'époque, on s'adressait à des gamers.
Mais alors, c'était intéressant ce que tu disais, Alain, justement. C'est ça qui a tué la presse, tu disais.
Ça, c'est une des deux, deux causes, à mon avis, les causes principales. Bah oui, effectivement, dans les magazines de jeux vidéo, soyons clairs, un magazine, c'était obligatoirement destiné à des gamers, à des passionnés. Pourquoi ? Parce que le grand public, il achète deux jeux dans l'année, trois jeux dans l'année. T'as pas besoin d'acheter un magazine tous les mois pour acheter trois jeux dans l'année. T'achètes les trois qui passent à la télé, en pub à Noël, et puis voilà, c'est réglé. Donc, en fait, on avait aussi un truc, c'est qu'à l'époque, oui, quand tu voulais savoir quelque chose sur le jeu vidéo, avoir de l'info, t'avais les magazines de jeux vidéo, point. Sinon, t'avais rien. Bien maintenant, sûr. Tu l'as partout. Et t'en as suffisamment. D'accord, c'est pas pointu. T'as pas le dernier import de machin. T'as pas la preview du jeu qui va sortir dans un an. Mais qu'est-ce que ça peut foutre quand t'achètes trois jeux par an, quoi.
C'est vrai que le public a beaucoup changé. Hein. On est pas... C'est devenu une industrie comme le cinéma. Il s'est élargi. Donc forcément, les réflexes ne sont plus les mêmes. Les médias ne sont plus les mêmes. Voilà.
Et moi, c'est là que je regrette. Alors... C'est là où je regrette le passé, notamment, où je trouve que c'était mieux avant. Parce que, non, je vais être clair, ce n'était pas mieux avant. Je préférais, ce qui est légèrement différent.
C'est mieux.
Je pense pas... Ben oui. C'est pas une question que ça soit mieux avant, mais c'est le fait que j'adorais quand même cette ambiance. On était entre gamers. T'allais acheter ton jeu dans les boutiques, t'achetais à des gamers. On était tous concurrents à une certaine époque dans les magazines, mais on était tous des gamers. On se faisait des coups dans tous les sens, mais en même temps, on s'aimait bien et on discutait à chaque fois qu'on avait l'occasion.
Nous, on aimait bien, vous, les gens dans Console Plus. Elle nous faisait beaucoup rire. À chaque fois, on regardait les photos, on faisait quelle légende ils nous ont trouvé. Mais du coup, on achetait Console Plus.
Eh oui, donc, Il y avait une ambiance, il y avait un truc qui se passait parce qu'on était vraiment entre passionnés. Et ça rejoint ce que disait Cyril tout à l'heure. C'est vrai qu'au départ, c'était un truc de passionnés. Maintenant, on est dans le grand public. Alors, c'est très bien pour l'industrie, c'est très bien pour les gens du marketing qui vendent beaucoup plus de jeux. Puis je pensais bien, hein, plus il y a de gens qui jouent, moi plus je suis content. Hein. Mais franchement, j'aimais mieux ce côté, c'était quand même autrement plus excitant et
moi aussi pour une raison
pour te rassurer là t'es entre passionnés
c'est pour ça que je suis là
J'aimais bien moi pour une raison très simple c'est que à notre époque la Wii aurait jamais marché quoi tu vois
tu penses donc,
ah bah oui clairement parce que
c'est possible
tu vois
c'est impossible.
Les gens n'étaient pas prêts le public n'était pas
le bouger, machin que t'agites devant l'écran juste à l'époque tu vois il l'aurait jeté par la fenêtre quoi. C'est une bonne manette et un bon jeu et un bon jeu de gamer
franchement à l'époque un peu gamin là comme ça on te présente un truc avec une petite image où on te voit agiter un chevalier Link avec son bouclier et un truc à l'écran ça t'aurait pas fait kiffer
non j'aurais vu le mec devant l'écran comme ça j'aurais dit c'est quoi ce bouffon et en plus je vais dire un truc c'est que des accessoires on l'oublie un peu mais la Wii n'a rien inventé
ah oui à l'époque il y en avait une tonne
des accessoires comme ça, il y en a eu des tonnes, y compris sur des consoles Nintendo précédentes, et ça n'a jamais marché en accessoire. Le seul coup de génie de Nintendo, c'est de ne plus l'avoir mis en accessoire, c'est de l'avoir mis
en standard manette
dans la box et à la place de la manette.
Ouais, va falloir qu'on parle, mais c'est pas le sujet.
Ouais, mais ça sera une autre vous allez parler, vous allez parler.
Mais alors, justement, ça.
On est fort en teaser.
Pourquoi ? Il y a une émission avec des choses que vous allez faire tous les deux bientôt, c'est ça ? Je sais pas. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi, on va revenir là-dessus. Cyril, toi, à l'époque, t'as fait plusieurs émissions de télévision où tu parlais du jeu vidéo. T'étais pas tout seul, t'étais accompagné, mais elles ont vraiment marqué beaucoup de joueurs, dont probablement beaucoup qui nous écoutent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore dur. C'est un média qui est assez perméable hein, aux jeux vidéo. Alors, il y a bien évidemment l'excellente émission Gameblog sur MCM tous les mercredis à 15h, le samedi et le dimanche. Mais néanmoins...
Enfin, elle n'est pas si excellente que ça parce qu'il n'y a ni Alain Huyghe ni moi dedans.
Hein c'est un peu vrai.
Vous y serez bientôt. Mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas facile.
Alors, c'est marrant.
Alors que ça s'ouvre au grand public.
C'est marrant que tu abordes ça parce qu'en parlant de la Wii, j'étais justement en train d'y penser. Parce que moi, toute ma problématique personnelle avec la Wii, c'est que d'un côté j'exècre cette console et en même temps je trouve ça vachement bien que ça ait pu ouvrir et que c'était notre rêve à l'époque que le jeu vidéo devienne universel et que
c'est marrant ce paradoxe justement.
C'est un paradoxe et le plus de monde possible puisse jouer. Parce que le jeu vidéo, du coup, pour nous, on se disait, plus il y aura de gens qui joueront, plus le jeu sera plus le jeu vidéo sera statutaire,
plus on pourra se faire de
meufs. Moins on aura de mal. Exactement. et moins on aura de mal de parler du jeu vidéo. Le problème, c'est que en télévision, eh ben, aujourd'hui, j'ai toujours autant de mal à parler de jeux vidéo qu'il y a 15 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire une émission de jeux vidéo sur une chaîne hertzienne, c'est impossible. Parce que les mecs vont te dire, c'est segmentant, c'est machin, c'est bidule.
Et pourtant, il y a des chiffres maintenant. On voit que ça a pénétré plus des deux tiers des foyers français.
Donc tu vois,
les préjugés sont restés. Ouais.
Donc au final, je me dis, la Wii est en train de supplanter des machines fabuleuses comme la Xbox et comme la PS3. Tu vois, et au final, elle n'a pas amené ce qu'elle aurait dû amener, c'est-à-dire le fait de pouvoir plus facilement parler du jeu vidéo.
C'est d'ailleurs
vidéo.
En t'écoutant que monsieur Satoru Iwata, président de Nintendo, a déclaré nous avons échoué avec la Wii.
Bien sûr,
forcément. Non mais ouais, mais ça va s'ouvrir. On sait aussi que c'est une question de génération.
Exactement, c'est ça.
Alors c'est vrai que les directeurs des programmes sont encore de la génération d'avant moi ou enfin d'avant nous, pardon, excusez-moi, ou encore deux générations avant nous, et que donc ils n'ont pas encore ce réflexe. Et puis il y a le fait aussi que sur les hertziennes maintenant on veut plus voir que de la télé-réalité et que les magazines on veut plus en entendre parler, que tout ce qui a du fond on ne veut plus
l'info
en entendre parler
en général.
Oh bah l'info speed quoi, l'info brute, l'info.
Donc s'il vous plaît, arrêtez de regarder les secret stories et merde comme ça, parce que ça pourrit toute la télévision quoi. Même si peut-être vous aimez bien, vous avez. Je ne jugerai
ici,
pas.
Ici la voix.
Je ne jugerai pas.
Le podcast.
Mais répète encore une seule fois ça.
Mais voilà, ça pourrit la télévision.
Cela dit, moi j'avoue que la télévision, je m'en sers uniquement pour jouer.
Non mais c'est vrai, nous c'est un peu le constat qu'on s'est fait il y a quelques semaines.
C'est terrible d'ailleurs parce qu'on l'utilise même plus pour s'informer en fait. Du tout.
On la regarde de moins en moins la télé. Hein. Enfin si, l'objet télé on la regarde.
De toute façon, tu t'informes pas beaucoup avec la télévision. C'est encore un autre sujet.
Ouais, mais à une époque, quand même, c'était tous les jours journal télévisé. Tu vois. Maintenant, c'est plus le cas.
Alors, on approche de la fin de ce podcast. On a bien commencé à cerner un petit peu vos différents avis sur le est-ce que c'était mieux avant. Ça a l'air d'être en tout cas assez constellé. Il y a des choses, oui, qui étaient
mieux.
C'est paradoxal,
tu l'as noté. Voilà, c'est paradoxal.
C'est nuancé. Il y a du bien plus, du bien mieux, et il y a des choses un petit peu. C'est presque un peu nostalgique, mais on comprend bien pourquoi. Qu'est-ce que aujourd'hui, en tout cas, si on se projetait un petit peu dans l'avenir, qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce qui vous excite ? Est-ce que, par exemple, l'arrivée d'un Natal, l'arrivée de ces nouvelles interfaces, c'est quelque chose qui vous attire ?
Sans rire, c'est de la blague. Mais t'as vu Natal, mais c'est scandaleux de proposer des trucs pareils.
Ça a l'air de faire rêver plein de développeurs.
Non, c'est commercial, ça élargit le public.
Ça a que cet intérêt-là.
Ça élargit le public, mais encore une fois, ça ne s'adresse pas à des passionnés comme nous.
Pourquoi ? Pourquoi ça ne pourrait pas s'adresser aussi à des passionnés ?
Je sais pas, j'ai peine à y croire. On sait jamais, mais je vois pas. Je pense que c'est le même phénomène
que la Wii.
Que personnellement, je ne condamne pas comme toi à ce point-là, parce qu'il y a quand même quelques petits trucs sympas. C'est vrai qu'un FPS, c'est sympa, je trouve, avec le truc. Franchement,
mais tu te le mets où ?
Un petit peu différent. Tu te le mets où tu veux. Après, c'est perso comme choix, quoi.
Julot.
Non, de toute façon, on verra bientôt parce que finalement, ça sort a priori en novembre 2010 avec 14 jeux. Et on va voir la tronche des 14 jeux.
Je pense que ça sera du grand public.
Faut être sérieux sur Natal à un moment.
Ça va être du Wii Sports et compagnie, à mon avis.
Vous le savez, par mes actualités actuelles à Turbo, j'aime quand même un peu l'automobile et donc particulièrement les jeux de course. Quand je vois leurs démos où ils nous disent ouais voilà vous allez pouvoir jouer en tendant les bras, en mimant un volant devant sa télé, mais il y a un moment faut arrêter le ridicule quoi. Au bout de 5 minutes déjà tu vas avoir des crampes et en plus c'est ridicule. Autant avoir un vrai volant, autant avoir une vraie manette. À quoi ça sert ?
Est-ce que tu partages cet avis, Raon ?
En partie, mais un truc qu'il ne faut pas oublier, pour moi il y a une différence fondamentale entre Natal et les autres interfaces de Motion, c'est que c'est complémentaire de la manette. Je le répète à chaque fois.
Et là, il vous a bien calmé.
C'est pas faux.
Tu peux garder ta manette en main.
Et l'histoire lui aura donné raison. Vous verrez. Comprenne qui pourra.
quand Champollion retrouvera les écrits,
pour ceux qui ont vu le documentaire sur
NCL, retrouvera ce podcast au pied d'une pyramide.
La pierre de Rosette. C'est pas la pierre de Rosette, c'est la pierre de Raon.
Mais c'est vrai que tu peux imaginer une caméra qui fixe ton visage et en même temps tu joues un FPS traditionnel à la manette, sauf que quand tu te penches la tête sur la gauche ou un jeu de caisse, quand tu tournes la tête,
ça fait des
tu vas regarder
bizarre,
sur le côté.
Ça fait
tu
des
vois.
Bruits bizarres quand tu penches ta tête sur le
je
côté
sais,
comme tu viens de le faire.
Le
gling gling comme ça.
Alain veut réagir.
Oui, enfin, de toute façon, par principe, j'aime pas critiquer ou encenser un truc avant de le voir vraiment.
Et je trouve ça assez,
bien dit.
Vraiment. Assez sage, voilà.
Donc,
parole de la
a priori, j'ai pas un enthousiasme délirant, mais je suis, mais je suis ouvert, quoi.
Mais
on s'en sait jamais, quoi.
Cyril, sans déconner.
Mais il a raison, faut voir. Mais moi, ce que
mais imagine-toi
ce
un
que
jeu de caisse
vu.
À la manette avec quand tu tournes sur la droite, tu vas regarder ta fenêtre à droite au lieu d'utiliser le deuxième thumb, par exemple. Tu vas pouvoir te concentrer sur ta conduite.
Car
ou sur Raon, ton
on
volant.
A pas des pouces, mais des thumbs.
Alors, Raon, je vais, il va falloir expliquer un truc à Raon, c'est que si tu tournes la tête, tu vois plus l'écran.
On peut légèrement le voir comme ça.
Donc, voilà. Une autre question.
Non, mais légèrement.
Enfin, en tout cas, moi...
Tu t'es jamais penché, sans déconner. Tu t'es jamais penché, pas forcément toi la tête, mais tu t'es jamais penché en réagissant à un jeu.
Mais
tout
oui,
le
mais
monde
je le fais avec une manette, donc pas besoin d'avoir
enfin,
Natal.
Enfin, pour moi, une chose est certaine. Peut-être Alors. Que ça me plaira à Natal. Peut-être qu'il y aura des trucs super et je suis ouvert. Mais en tout cas, j'abandonnerai pas la manette. Ça...
Ça,
c'est clair.
Ça me paraît assez juste. Je
n'abandonnerai pas la manette, quoi qu'il arrive.
Ah oui, moi non plus. Et je vais vous dire, je vais jouer les vieux cons, mais la manette, le pad numérique, la croix, et puis le bouton A, B, et voilà. Et pas leur connerie de gâchette, de machin, de stick analogique à la con, là.
Alors justement, maintenant qu'on a bien compris, en tout cas, votre position sur les, on va dire, les nouvelles interfaces de jeu, au-delà de tout ça... Qu'est-ce que vous attendez le plus ? Qu'est-ce qui vous excite ? Et là, vous êtes totalement libre. Est-ce que c'est un jeu ? C'est une machine ? C'est une technologie ? C'est une manière de distribuer les jeux ?
Est-ce que vous croyez qu'on connaîtra à nouveau quelque chose comme le passage de la 2D à la 3D, par exemple ?
Ouais.
Un truc
ce séisme.
Aussi énorme.
Alors, je dois dire... 4D. Excuse-moi, je commence, je te passe la main après. Je ne crois pas du tout à la 3D. Tout du moins... pas la 3D avec des lunettes, parce que j'ai assisté à une démo du jeu Avatar avec les lunettes. Au bout de 5 minutes, j'ai la myxomatose.
Donc, reste bien avec la myxomatose, mon lapin est mort de la myxomatose.
Et j'ai un mal de crâne comme ça.
Il y en avait des super, je ne sais pas si vous avez connu, sur un Master System.
Mais oui, mais
même qui était fabuleux,
sur Atari,
l'effet
y avait la Master
était génial.
Et sur Atari
ST. Effectivement, au bout de 10 minutes, et qu'est-ce que c'est un jeu qui, au bout de 10 minutes, te file la tronche comme un ballon, il faut que tu arrêtes. Attends.
Alors peut-être que le système, j'attends de voir le système de 3D où tu n'auras plus besoin de lunettes qui sera juste sur l'écran, ça peut-être ça amènera quelque chose, peut-être, mais avec les lunettes
j'ai
je
vu
n'y
des
crois.
Téléviseurs comme ça pour l'instant c'est pas gagné non plus.
C'est pas gagné.
Non.
Bon bah alors
enfin, pas tout de suite on va dire.
T'oublies la ce qu'on appelle la vraie 3D. Ouais. En revanche moi ce que j'attends c'est encore plus de réalisme. Moi je suis basique. Pourquoi j'adore la PS3 aujourd'hui ? Parce que c'est la console qui graphiquement est la plus puissante, qui me permet de voir des images les plus béton.
Mais est-ce que
j'attends que les prochaines consoles...
Mais Cyril, est-ce que ça va pas à l'encontre de ce que tu disais tout à l'heure ? Tu préfères le gameplay 2D, qui est tout sauf le plus réaliste, et là tu me parles de réalisme et de 3D la PS3.
Bah oui, mais maintenant on peut pas revenir en arrière, donc autant aller la fuite en avant. Et puis j'aimais bien ça, même de la 2D, même autant de la 2D, j'aime bien cette course à l'armement. Ouais. J'aime bien qu'on ait des images de plus en plus dingues, qu'on monte en résolution, qu'on ait. Mais effectivement, et c'est vrai que c'était génial à l'époque de Nintendo, l'époque de la NES et de la Super NES, c'est aussi quand même qu'on conserve du fond sur le jeu, du vrai gameplay et que on ne sacrifie pas ça pour totalement le graphisme, quoi.
De ton côté,
ouais,
alors.
De toute façon, la technologie, bon, au bout d'un moment, on a des limites. Hein, je veux dire, par exemple, tu parles, bon, dans Gran Turismo, on augmente le truc. Qu'est-ce qu'on va faire de plus ? 4 reflets de plus sur la voiture, des petits trucs sur les pneus.
Il y aura les dégâts.
Est-ce que ça change vraiment grand-chose ?
Regarde, de pouvoir être en vue intérieure, ça a amené énormément de choses, quand même. Hein.
Ouais, enfin moi je suis pas foufou de la technologie, même si bon je crache pas sur la...
C'est pas que l'aspect graphique, la technologie, c'est aussi par exemple la première fois que t'as joué à GTA 3 par exemple, c'est les jeux qui prennent une ampleur complètement dingue, qui deviennent de plus en plus grands, etc. quoi. C'est pas unique.
Oui, parce que
parce qu'effectivement au bout d'un moment ça s'arrête quoi. Le...
Ouais. Oui, mais imagine un GTA, imagine un GTA où t'as vraiment, où t'es vraiment dans une ville quoi. C'est-à-dire où ils prennent Los Angeles, mais modélisé.
Mais est-ce que c'est vraiment
perfection.
Du jeu du coup?
Ah bah oui.
Ouais, je sais pas.
Mais là, regarde, moi c'est ce qui me fascinait dans Shenmue.
Ça viendra de la réalité virtuelle, c'est
plus
ça que tu veux dire?
Ouais, peut-être que enfin c'est,
mais est-ce que c'est pas ça,
ça enlèvera son aspect.
Est-ce que c'est
ce que j'aime bien dans le jeu vidéo,
c'est
avoir le côté un
du
petit
jeu.
Peu justement c'est un autre style de vie, je suis un peu déconnecté de ma vraie vie, je vis une aventure, un truc un peu différent.
Moi j'aime bien, je suis pas foufou du réalisme, j'aime bien le côté du photoréalisme, j'aime bien que ça soit un petit peu délire, un petit peu. Bon, par exemple, j'adore Mario Galaxy que je trouve un jeu extraordinaire.
Non, je rigole.
C'est un jeu extraordinaire. Bon, bah, c'est délire. Il se transforme en abeille, il vole, machin. Bon, où est le réalisme là-dedans? Mais pour moi, ça a un pied, quoi. C'est vraiment super.
Et justement, qu'est-ce que
tu as? De même
toi,
que j'adore la BD et que je préfère la BD à un album photo, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Est-ce que c'est pas ça le problème, justement, que maintenant il y a tellement de types de jeux différents que est-ce qu'il ne devrait pas y avoir presque des machines dédiées à des types de jeux, tu vois? Parce qu'effectivement, comme le dit Alain, pour un jeu de plateforme, t'as pas forcément besoin d'une machine overpuissante. En revanche, pour une simulation de conduite ou une simulation de vol, t'as besoin d'une machine de
folie.
Mais
est-ce qu'au final, c'est pas un peu ce qui se produit aussi? Puisqu'on a vraiment, aujourd'hui, on a de nouveau une redistribution un peu des cartes, avec la Wii d'un côté, qui, on va dire, pour un public plus familial, des interactions nouvelles, des jeux un peu plus simples, mais qui en font pas forcément des mauvais jeux non plus. Hein. Tu le citais, hein, Mario Galaxy, c'est un grand jeu. Et puis de l'autre côté, la course à la technologie pure, du côté de Sony et de Microsoft, qui sont vraiment tous les deux un peu dans le même segment.
Oui, c'est pas faux. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que peut-être on peut assister à encore plus une spécialisation. Ça peut peut-être être ça l'avenir. Mais alors, on va arriver à ce qu'on avait connu avec les machines d'arcade.
Mais j'insiste, Alain, tu n'as pas répondu. Et je sais que les gens le réclament. Mais qu'est-ce que tu attends vraiment? Ça peut être un jeu. Hein.
Moi, j'attends des jeux, essentiellement les machines. Bon, je trouve que c'est secondaire, globalement, les machines. Ce qui est important, c'est le jeu, toujours, de toute façon. Donc, je sais que les machines d'après seront très bonnes. Et il y aura des jeux. Actuellement, le jeu que j'attends le plus, c'est Bioshock 2.
Bioshock 2.
Parce que j'ai craqué vraiment total sur le 1. Je trouve, d'abord parce que j'adore les FPS, mais c'était pas juste un FPS. Ouais. Ah, oui. Il y avait une dimension, il y avait vraiment un décor, un esprit graphique, une ambiance qui m'a vraiment... Moi, c'est ce que j'adore le plus, c'est quand t'as un FPS, mais qu'en plus, t'as vraiment une vraie ambiance, un vrai truc. Et il y avait un univers, et moi, il m'a fait craquer celui-là.
Puis je crois que tu as apprécié aussi la dernière fois que tu es passé à la rédaction, tu as vu Bayonetta et tu as
fait. Ah oui, ça le fait, ouais.
Dans un tout
déjà
autre
graphiquement, ça envoie du pâté, Bayonetta. Quand même.
Je parlerai pas de pâté pour qualifier Bayonetta, mais bon, ça te regarde. Et toi, un jeu que tu attends particulièrement? Si je dis un GT5 par exemple, je suis loin de.
Eh ben écoute, j'ai un gros problème, c'est que je viens de tomber amoureux pour la première fois de Forza, avec Forza 3 qui est juste sensationnel, et que pour une fois je trouve meilleur que Gran Turismo, et là ce sont tous mes fondamentaux qui viennent de s'écrouler. Et je n'arrive pas encore à me remettre de cet état de choc. Donc finalement, je suis même en train de me demander si j'attends réellement GT5, parce qu'en fait, dans Forza 3, j'ai trouvé tout ce que j'attendais d'une simulation de conduite, quoi.
Eh ben écoutez, messieurs, en tout cas, ça a été clair, évident. On a bien compris un peu quelles étaient vos positions. Nous, en tout cas, vous la connaissez depuis pas mal de temps. À la question « c'était mieux avant ?», notre réponse, elle est simple.
Vive l'anarchie.
Il y avait des choses qui étaient super avant, mais il y en a qui sont magnifiques encore aujourd'hui. Et que de répondre juste oui ou non, ce serait un petit peu tranché, quel que soit le style de
réponse.
Il vaut
mieux répondre oui ou PS3, par exemple.
c'est difficile de dire, en tout cas, qu'aujourd'hui, c'était que mieux avant. Ça, c'est en tout cas, c'est pas sur gameblog.fr que vous entendrez ce genre de propos, hein.
De toute façon, si tu dis ça, t'arrêtes de jouer, donc
bah oui,
c'est, là, c'est pas compliqué.
Et nous, comme on a encore,
il n'en est pas question.
Tu peux aimer que le rétro gaming, hein.
Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est ok, vrai. Tu m'as encore eu.
Et puis la 2D n'est pas morte, hein. Il y a un jeu qui est sorti il y a pas longtemps qui le prouve, c'est Muramasa. Je sais pas si vous avez pu voir ça sur Wii.
Pas encore,
c'est magnifique. Et quelque part, il y a encore des petits studios comme ça qui peuvent nous ressortir des trucs du passé avec des gameplays excellents, etc. Donc.
Et tu veux conclure,
c'est pas mort. Oui, moi en fait j'attends le prochain jeu qui va m'éclater tout bêtement.
Voilà. Mais tu ne sais pas encore exactement lequel c'est, et c'est cette surprise.
Mais je sais qu'il y en aura un. C'est ça qui est génial dans le jeu vidéo, c'est que et même plusieurs.
Et eh ben en tout cas vous l'avez compris maintenant la parole est à vous hein, vous les auditeurs de ce podcast de gameblog.fr et internautes du site. Eh ben, sur les forums maintenant, est-ce que c'était mieux avant? Quels étaient vos gros souvenirs, vos principaux moments de kiff dans le passé et ceux d'aujourd'hui? Comparez-les un petit peu, voyez si finalement bah, on n'arrive pas à trouver un juste équilibre. Et puis nous en tout cas vous le savez, on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine, mercredi prochain, pour un nouveau podcast. On va bientôt rentrer dans la grande période de fin d'année, les grandes sélections de Noël. On
donc
va
c'est
revenir
sur les huîtres alors le prochain podcast.
Oui, mais ça ne rendra pas malade, t'inquiète pas, il n'y aura pas de crise de foie parce qu'on va passer au crible vraiment les gros jeux de fin d'année, revenir dessus, les grands tests et vous dire un petit peu quels sont nos gros coups de cœur, les jeux qu'on vous console, console par console et PC aussi bien évidemment. Vous allez découvrir ça dans les semaines à venir et puis cette fameuse émission vidéo qui va arriver toutes les semaines bientôt sur gameblog.fr d'ici la fin d'année. Ce sera un beau cadeau et ça continuera bien sûr en 2010. Allez, on se donne rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien et surtout, jouez bien. Encore un grand merci à Alain. Encore un grand merci à Cyril.
Merci à vous.
Merci à
vous. À très bientôt sur gameblog.fr. Allez. Ciao.